Israéliens, vous avez dit, il y a une démocratie en Israël, l'État d'Israël jamais se permettrait de faire à son peuple ce que Bachar el-Assad fait. Donc moi, je crois, je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Nabil et Monsieur Michel, vous ne croyez pas que les Palestiniens, maintenant, ils regardent, ils ne réagissent plus, ils sont un petit peu abasourdis par rapport à ce qui se passe, en particulier en Syrie, où la Syrie, elle a accueilli vraiment beaucoup de Palestiniens, et les Palestiniens sont très, très bien accueillis en Syrie, et je vois les Syriens, comment ils les adorent, et je crois qu'ils sont eux aussi touchés. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'entends aussi que Israël, c'est-à-dire l'État d'Israël, soutient énormément Bachar el-Assad. Elle a tapé sur la table, elle a demandé à Obama que personne n'intervienne. Il faut vraiment laisser Bachar el-Assad faire son travail parce qu'ils ont vraiment beaucoup de liens amicaux. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Merci.
Une deuxième ou troisième question, déjà une deuxième.
Michel, je trouve que tu es très généreux. Pour une fois, je me souviens de « en toute impunité », disais-tu l'année dernière quand je t'ai vu dans la banlieue de Jérusalem. Tu sais bien que des derniers temps, Israël, le gouvernement israélien a de nouveau voté beaucoup de lois que nous qualifions d'ethnicisation. J'ai d'ailleurs un texte là qu'un de nos amis de notre association a rédigé et qui concerne particulièrement la situation des Arabes israéliens qui rend leur possibilité de rester à Jérusalem-Est encore plus improbable. Alors, quand tu nous dis que peut-être pour la première fois, les indignés ne les ont pas accusés, je me demande si tu n'es pas un peu optimiste. Parce que ces lois sont terribles, tu le sais bien. Et quant aux colons, qui est-ce qui ose s'opposer aux colons? Personne. L'armée dit toujours, notre rôle est de défendre les Israéliens. Et ce n'est pas de battre les colons ou de soutenir les Palestiniens. Donc les colons peuvent faire n'importe quoi et on n'en a pas beaucoup parlé pendant ce débat.
Bonsoir. Je voudrais revenir sur une question sur l'idée que M. Nabil a évoquée dans son intervention et qui est la conséquence de son intervention d'ailleurs. Quand vous avez évoqué que la direction actuelle de l'autorité palestinienne est une direction incapable de mener la politique ou la résistance pour la libération de la Palestine, et que vous avez évoqué en même temps que cette direction doit être cédée à une autre organisation et comme vous l'avez évoqué, il faut qu'il soit une organisation internationale. Ma question, est-ce que vous n'êtes pas en train de délégitimer une organisation qui a combattu depuis des années et des décennies pour représenter et qui est le représentant légal et légitime de peuple palestinien, et est-ce que vous voulez aussi la concéder cette légitimité à une organisation et qui est incapable, parce que si on peut nommer cette organisation entre les mains de laquelle soit cédée cette direction de peuple palestinien, il n'y a que l'ONU. On sait très bien qu'on l'a lu, elle aussi, il est incapable de protéger le peuple palestinien et aussi d'appliquer les résolutions qu'elle a
voter.
S'il vous plaît, monsieur, il y a d'autres personnes qui veulent la parole. Raccourcissez, ouais. S'il vous plaît.
Merci.
Et allez directement à la session. Merci. Oui, qui a une question? Pardon.
Ahmed, oui.
Ahmed.
Bon, moi je suis...
Attends, tu as un micro.
Bon, maintenant, c'est vrai que... il y aura peut-être plus d'État. Mais néanmoins, moi je dis, bah oui, mais que faire? Moi je pense quand même néanmoins, aujourd'hui, que la seule référence qui nous permet de bouger et de mobiliser et d'exploser, que sais-je, c'est le droit international, de toute façon. Comme transition, quelles que soient les insuffisances de cet instrument, c'est notre, enfin je veux dire, c'est là. C'est les résolutions de l'ONU, c'est etc., etc. Et c'est sur cette base-là que nous devons interpeller les politiques et puis les emmerder, parce que c'est un cadre, de toute façon. Parce que sinon, si on commence maintenant à dire ben, un seul État, etc., il n'y a aucun cadre, et peut-être que, compte tenu des rapports de force, comme vous l'avez souligné, l'idéologie sioniste est tellement forte et tellement habile, voire les accords d'Oslo qui étaient illustrés, etc., ben, ils vont pervertir cette revendication actuelle, qui est légitime. Dans les années 70, c'était une revendication de toutes les forces de progrès arabes pour un État laïque, démocratique, etc. Bon, bien sûr, moi j'adhère, mais néanmoins, moi je dis là, c'est le respect des droits internationaux. Il faut le crier partout et interpeller les politiques et les États et la communauté internationale partout.
Bien, on va peut-être répondre déjà.
Sur la question de Palestiniens et la Syrie, Assad, c'était pas une question en tant que telle, mais. Je peux vous dire la chose suivante. Le rapport entre les Syriens et les Palestiniens, et en tant que tel, les Palestiniens réfugiés en Palestine depuis 1948, ont toujours été très bons. Et il est vrai que le régime syrien avait l'avantage de laisser les Palestiniens pouvoir, par exemple, travailler et accéder à plusieurs professions, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du Liban, qui vient juste, là, ces derniers jours, de changer de loi, ils n'ont même pas changé, de discuter de la possibilité de permettre aux Palestiniens du Liban d'accéder à des emplois dans la société libanaise. Ça, c'est vrai. Maintenant, la véritable question, bon, en même temps, attention, le Palestinien en Syrie ne pouvait pas faire de politique. Et s'il faisait de la politique, il fallait que cette politique soit faite dans le cadre des organisations palestiniennes qui sont amies avec le régime syrien et qui sont installées en Syrie. Donc, faisait faire de la politique, revenait à instrumentaliser forcément le Palestinien qui, s'il n'appartenait pas à ces associations, il devenait membre de ces associations, de telle ou telle autre association. En ce qui concerne le régime syrien et ses rapports à Israël, oui, le régime syrien a servi Israël depuis 1974. Depuis 1974, la Syrie a fait le travail exactement celui qui arrange l'État d'Israël, à savoir protéger les frontières de l'État d'Israël. Et le régime syrien a tiré plus d'une fois, d'ailleurs la seule fois où il a tiré, c'était dans la direction de ceux qui cherchaient, y compris des Palestiniens de Syrie, qui cherchaient à aller vers les frontières entre la Syrie et la Syrie. Et Israël. Donc le régime syrien qui a porté depuis la guerre de 1974 a porté, puisque c'est le seul régime qui n'a pas voulu négocier avec Israël. C'était très malin, ça, ce n'est pas de ça que nous discutons. On en discutera une autre fois sur les stratégies. Mais il a eu une très bonne stratégie, c'est celle de ne pas négocier et s'instituer comme étant le seul régime arabe encore qui résiste à Israël. En réalité, il ne résiste rien du tout. Il n'a jamais tiré une seule balle dans la direction de l'État d'Israël depuis 1974. Ceci étant, je sais que c'est un débat très, très douloureux entre les moyens orientaux sur le régime syrien en particulier, et donc je pense que ça serait trop long d'aller loin dans l'explication. Ceci étant, on peut aussi discuter de régime syrien et de ce rapport à la résistance palestinienne. Mais évidemment, je ne le ferai pas aujourd'hui, parce que là aussi, c'est très intéressant. Mais c'est intéressant dans les deux sens. Attention, je l'ai déjà dit, je pense que je l'avais dit hier, les Palestiniens ne sont pas des anges non plus. Et la résistance palestinienne n'a pas fait tout ce qu'il fallait qu'elle fasse, là où elle était, quand elle était, etc. Ni en Jordanie, ni au Liban, ni dans ses rapports avec les pays arabes d'une manière générale. Par exemple, son incapacité d'avoir de bons rapports à la fois avec le Baas irakien et le Baas syrien, par exemple. Je prends ça vraiment en exemple. Je m'arrête là sur cette question parce que je sais que le temps nous manque. Sur il y a une question sur la question de la direction palestinienne. Si on attend, je parlerai des lois d'Israël parce que je m'intéresse actuellement beaucoup sur les lois d'Israël en ce qui concerne particulièrement le Negev, le sud de Palestine et le désert palestinien et la loi qui est en train d'être préparée pour en expulser quelques milliers aujourd'hui même et qui est en train de se faire là pendant que nous discutons ici. Israël est un pays de loi, c'est-à-dire au sens Israël fonctionne par les lois. Et Israël peut faire une loi aujourd'hui pour l'application de demain et le remettre en cause plus tard pour remettre une deuxième loi. Et c'est ça qu'on appelle la démocratie israélienne. C'est-à-dire qu'on fait une loi, on le fait voter par le juge parti, on le fait voter par son parlement, il devient démocratique et le monde entier, comme le monde entier est habitué à vénérer l'État d'Israël, je vous rappelle que c'est le seul État au monde qu'on vénère sur la planète Terre. En général, on ne vénère jamais un État. Un État ne vénère jamais un autre État. Seul l'État d'Israël est vénéré par les autres États, et particulièrement les États européens. Une question que j'avais... Je pense qu'il y a eu un malentendu concernant la direction palestinienne de ce que j'avais dit. Quand je dis la direction palestinienne devrait démissionner et mettre le sort de Palestiniens entre les mains de la communauté internationale, ce n'est pas pour... sans entrer dans les explications sur ce qui est la direction palestinienne, qu'est-ce qu'il est devenu, est-ce qu'il fait vraiment ce qui lui appartient à faire ou pas. Ce qui est sûr, c'est que la direction palestinienne est perdue. Il n'a pas les outils nécessaires aujourd'hui pour porter la question palestinienne à la hauteur qu'elle mérite. Il n'a pas ces éléments-là pour mille raisons, pour mille raisons que l'on pourrait discuter, bien entendu. Dont il s'agit aujourd'hui, puisque moi je pense, mais ce n'est que moi, hein, c'est une idée, hein, comme toutes les idées que j'évoque de temps en temps quand on parle de la Palestine, qui ne valent pas toutes, ne sont pas forcément bonnes. Je pense que lorsque la direction palestinienne, coincée telle qu'il est aujourd'hui, si elle décide de démissionner, ne pouvant pas assumer ses responsabilités, et surtout, quelle est cette responsabilité? Cette responsabilité, c'est de protéger le peuple palestinien. C'est ça, c'est ça qu'on demande à la direction palestinienne. On ne demande pas à la direction palestinienne de gérer l'argent de l'Europe qui arrive en Palestine. On ne demande pas à la direction palestinienne juste pour construire des meubles et de fournir ce qu'il faut aux corrompus de cette même direction palestinienne. Non, c'est pas ça qui est demandé. Ce qui est demandé à la direction palestinienne, c'est de protéger le peuple palestinien. Est-ce que la direction palestinienne est capable aujourd'hui, a-t-il le moyen de protéger son peuple? La réponse est non. Quand moi je ne suis plus capable en tant que représentant justement légitime, quoique on peut parler de la légitimité de Abbas hein, par ailleurs, mais ce n'est pas le sujet. En tant que représentant dit légitime du peuple palestinien, M. Abbas, n'étant pas capable de protéger son peuple, il devrait, étant donné les conditions qui l'entoure, c'est-à-dire qu'il est incapable de faire la guerre à Israël, il ne peut pas éliminer Israël, il ne peut pas protéger son peuple par la force, alors il lui reste une seule option. Il n'y en a pas 36 000, il y en a une. Il démissionne et il met la communauté internationale devant ses responsabilités. L'avantage est que cela constituera un tremblement de terre, quelque part, vu par la communauté internationale et par l'Europe. Et cela obligera ces communautés internationales, parce que dans les lois internationales, justement, si le peuple palestinien s'il n'y a pas de direction palestinienne, alors il appartient à la communauté internationale de protéger le peuple palestinien. Et ça mettra la question palestinienne à des hauteurs aujourd'hui qui permettraient d'obliger Israël de... En tout cas, ça sera véritablement une gêne considérable vis-à-vis de l'État d'Israël. En tout cas, c'est ce que je pense. Et enfin, sur le droit international d'un seul État ou pas un seul État, le droit international ne s'occupe pas à savoir si c'est un État ou plusieurs États. S'il y a une seule chose claire dans le droit international en ce qui concerne la question israélo-palestinienne, c'est que le droit international nous permet encore aujourd'hui de dire que l'État d'Israël n'est pas un État légitime du point de vue du droit international. Et ça, il faut bien que nous le sachions. Et la direction palestinienne ne s'en sert pas d'ailleurs de ça parce qu'il en est incapable de ce genre de choses. Or, nous savons que dans la tradition du droit international, il est bien clair, il est dit clairement qu'un peuple nouvellement arrivé sur une terre, il ne peut acquérir sa légitimité qu'après avoir signé la paix avec le peuple autochtone. Le peuple autochtone, ce sont les Palestiniens, et le peuple arrivé en Palestine, ce sont les Israéliens. Or, il n'y a pas eu de signature de paix entre les deux. Par conséquent, à aujourd'hui, l'État d'Israël est un État illégitime du point de vue du droit international. Sauf que personne n'en parle parce que ça dérange tout le monde et parce que tout le monde s'en fout, finalement. Et voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui sur le terrain.